Serge Brussolo, Territoire de fièvre, chapitre 1er. Le vaisseau vibrait doucement en plantant dans la nuit de l'espace le dôme carbonisé de son dernier étage. Cette trépidation courait dans tout son squelette fatigué, faisait grimacer les tuyaux, chanter les rivets desserrés, gémir les tôles du fuselage. Étendue sur sa couchette, Lisa écoutait la plainte métallique montant de la vieille carcasse comme un morceau de musique démodé qu'on ne peut plus entendre qu'avec mélancolie. Un de ces airs populaires qui garderont toujours le goût un peu mièvre et sucré des souvenirs de jeunesse. Elle savait qu'à l'extérieur, dans les ténèbres du cosmos, la grosse fusée Patode arborait niaisement sur son flanc gauche l'habituelle cocarde et cahiers aux couleurs de l'université. Pourtant, elle se sentait presque bien au centre de ce labyrinthe de sas et d'écoutilles. À l'aise, comme dans un vêtement familier ou un fauteuil creusé par de longues heures de lecture. C'était un vaisseau vétuste, un ancien transport de troupes à carburant liquide qui avait fait la campagne de Gangtar et qu'on avait réformé pour cause d'obsolescence. Des années auparavant, il avait été mis aux enchères. Et l'université fangienne de Santa Catala l'avait acheté pour une bouchée de pain. Le vaisseau avait ainsi troqué le parking de la salle des ventes pour l'aire d'envol de la faculté des sciences. Bien des étudiants avaient rêvé, en face de ces quelques milliers de tonnes noircies par les rayons cosmiques et les rentrées brutales dans l'atmosphère. Beaucoup de garçons et de filles, inscrits en première année de biologie, avait profité de la négligence des vigiles du campus pour faire l'amour un soir d'été debout contre un aileron de dérive, le dos griffé par les gros boulons du fuselage. Lisa, comme les autres, avec ses longs cheveux blonds, son corps mince au sein dur d'adolescente montée en graines, avait coulé des regards alanguis sur les structures tortueuses des multiples cockpits d'observation, les tourelles d'acier bleuie que les hublots horizontaux fendaient comme des haumes de chevaliers teutoniques. Comme les autres, elle avait perdu sa virginité, les reins collés contre un baril de kérosène, la jupe relevée jusqu'aux hanches, les pupilles fixées sur les antennes radar du poste de pilotage, la tête pleine d'images d'outre-espace. Et maintenant, 5 années plus tard, elle était là, couchée au cœur de la machine, le corps douloureux des accélérations successives que lui avait fait subir la traversée de l'atmosphère fangienne. Elle s'appelait Lisa Armstrong. Elle était docteur en zoologie, elle avait 29 ans. Elle ne savait pas pourquoi. Le doyen de la faculté l'avait brusquement inscrite au tableau de service du personnel volant, l'arrachant à son amphithéâtre pour lui faire endosser la tenue grise des scientifiques navigants. On lui avait vaguement fait comprendre que le vaisseau entreprenait, sous couvert d'exploration géologique, une mission de la plus haute importance et qu'on avait besoin d'elle. Elle n'avait pas essayé d'en savoir plus. L'autorité administrative lui inspirait une crainte diffuse et elle avait toujours préféré se montrer docile. Jusqu'à maintenant, elle n'avait pas eu à s'en repentir. Elle attendait, couchée dans la pénombre de la cabine aux flancs blindés, qu'on veuille bien lui révéler le rôle qu'elle était censée jouer. Pour l'instant, elle restait perplexe. Santa Catala n'était plus, depuis bien longtemps, une université de pointe. D'autres écoles, plus compétitives, avaient percé sur le marché des cerveaux, sonnant le glas des anciennes filières de formation. Après avoir connu la gloire, la richesse, Santa Catala s'endormait aujourd'hui du sommeil poussiéreux des universités provinciales. Non, elle ne savait pas vers quelle obscure entreprise l'entraînait le vaisseau usé. Et cette ignorance emplissait sa poitrine d'une sourde angoisse. Quelqu'un frappa soudain à la porte de la cellule d'habitation, tirant la jeune femme de sa rêverie. Elle sursauta et s'assit sur la couchette, l'estomac noué. L'index replié heurta de nouveau le bâton métallique, s'appliquant à faire sentir son impatience. Lisa se redressa, fit coulisser le panneau de tôle. Un jeune garçon au crâne rasé se tenait dans la coursive. Il salua de façon réglementaire avant de débiter d'une voix atone. « Le commandant Junia vous attend en salle de projection. Je dois vous accompagner. »